et boum,
les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses.
Une émission menstruelle
et participative.
Tous les premiers et troisièmes vendredis du mois.
À 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique.
Hello, hello, bienvenue dans Les Détricoteuses, l'émission qui mêle création sonore, féminisme et questions de genre dans les studios de JetFM. Aujourd'hui, je suis entourée de Marjo et Valentine à la technique. Bonjour les filles.
Hello, hello.
Coucou.
Marianne, qui n'est pas là, on pense bien à toi. Chaque année, depuis 8 ans, nous choisissons parmi les mots contraints de l'année un acronyme. Vous savez, c'est des lettres en majuscules avec des points au milieu. Donc cette fois-ci, nous avons choisi les douces lettres que sont le C, le R et le S. C, R, S. J'avoue que j'étais vérifier ce que ça voulait dire. Compagnie républicaine de sécurité. Inspirant. Et nous avons parmi nous également Juliette, Salomé, Luc en plateau et Sandra par téléphone. Bonjour tout le monde.
Salut.
Bonjour.
Vous avez fait le choix audacieux, pour ne pas dire courageux, d'avoir choisi ce mot parmi les 10 proposés. Alors je comprends, parce que c'est un mot très inspirant. Si vous êtes allé voir les vidéos inédites du 25 mars 2023 recueillies et analysées par Mediapart pendant les manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline, par exemple, vous les avez vues ? Bon, et ben, pour ceux qui ont, celles qui n'ont pas vu, je vous laisse regarder. Mais c'est très inspirant. Je ne sais pas si vous avez vu aussi le film qui vient de sortir de Dominique Moll qui s'appelle Dossier 137. Très, très inspirant aussi. C'est une fiction à partir de faits réels sur les violences policières pendant les Gilets jaunes. Autour particulièrement de la BRI, un autre acronyme à la douceur d'un tir de LBD dans ta gueule. Très, très, très inspirant. Le seul problème quand on sort de Dossier 137, c'est qu'on a envie d'utiliser un autre acronyme de 4 lettres, je vous donne un indice, avec les 3 premières lettres de l'alphabet, mais dans le désordre. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est bon, on l'a.
Je trouve d'ailleurs, petit aparté, que tous les films de Dominique Moll sont très inspirants, pour ne citer que La Nuit du 12, qu'aujourd'hui, pour l'émission, je renomme La Nuit du 13-12, ou Seules les bêtes. Et avec Dossier 137, ces films analysent toujours un système de domination, des hommes sur les femmes, des pays du Nord sur les pays du Sud, d'une politique sécuritaire sur une population. Si ça vous inspire, eh ben, vous savez quoi, allez les regarder pendant ces longues soirées d'hiver qui s'annoncent. Bon, là encore, je cible les violences policières en manif. Mais bien sûr, on pourrait parler du triste anniversaire de la mort de Ziad et Bouna. Ils avaient 17 et 15 ans le 27 octobre 2005, quand ils ont été électrocutés alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ça fait tout juste 20 ans. Depuis, le nombre d'homicides policiers est en hausse. Enfin, à ce niveau-là, c'est même plus une hausse, c'est une montée fulgurante, genre une montée d'acide très puissant. Basta a compté 50 décès liés à une intervention des forces de l'ordre en 2023 et 52 en 2024, contre 10 en 2010. C'est inspirant, non ? Et bien, si ça vous inspire, vous pouvez aller plus loin sur ces sujets des violences policières. Je vous conseille de lire, d'écouter, de regarder les films de Mathieu Rigouste, qui est sociologue et militant et qui travaille sur l'ordre sécuritaire, et de David Dufresne, qui est journaliste et qui a fait le projet Allo Place Beauvau pour recueillir les faits de violences policières dans les manifestations de 2018 à 2020, et qui a réalisé le film Un pays qui se tient sage. Vous avez beaucoup de références à deux mecs dans cet édito.
Putain, j'allais te le dire.
En tout cas, si vous allez jeter un coup d'œil à tout ça, parce qu'a priori, il vous reste au moins un œil, vous verrez, c'est réjouissant. Donc réjouissant pour ne pas dire inspirant. Enfin, inspirant, je ne sais pas, parce qu'en fait, aucune d'entre vous n'a choisi de parler d'une manière ou d'une autre des compagnies républicaines de sécurité. Et on vous en remercie. On a suffisamment parlé depuis le début de cette émission de CRS. Et parce que vous êtes des poètes, des artistes, des islamo-gauchistes, des magiciennes de la création, vous avez choisi de transformer d'un coup de baguette sonore les CRS en compagnie rayonnante de la sororité, en cœur râteau sexualité et en coup et responsabilité des virilités. C'est ça aussi les détricoteuses. Alors merci à vous. Et on commence tout de suite avec ton sujet, Sandra, la compagnie rayonnante de la sororité. Salut Sandra, tu nous entends ?
Il a été déclaré qu'il y aurait dans tous les pays du monde des compagnies rayonnantes de la sororité.
CRS. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment.
Si je me disais que toutes les femmes étaient mes sœurs, sans hiérarchie aucune, dans un rapport d'entraide, de partage, d'écoute et de conseil. Alors je me suis demandé si d'autres femmes que moi, des inconnues, et si nous faisions en fait partie de cette communauté, de cette compagnie rayonnante de la sororité.
Plus en plus présent depuis quelques années. J'ai l'impression qu'on le démocratise depuis pas si longtemps que ça, enfin qu'on en entend vraiment parler et que ça devient vraiment un sujet depuis peut-être 4-5 ans. Je pense que c'est hyper important quoi.
Ouais, il y a un besoin. Moi, j'ai pas de communauté, mais je sais que avec des femmes, on a les, par définition, les mêmes défis dans la vie, quoi. Et il y a plein de choses qui nous réunissent. Et du coup, de pouvoir avoir des communautés où on en parle.
Ouais. Et même, moi, je dirais, genre la sororité, quand c'est possible, ça démarre dans ton cercle proche, que ce soit la famille, les amis. Et genre même, enfin, j'ai l'impression que si t'as des sœurs, par exemple, ou si t'es proche de ta mère, enfin. Le fait de cultiver ces relations-là, même dans le cercle familial, c'est un début de sororité en vrai.
Avant, je ne considérais pas toutes les femmes comme mes sœurs du tout. C'était vraiment au même titre que les hommes. En fait, j'ai toujours eu des amis féminines et masculins. Et de plus en plus, je considère les femmes comme des potentiels alliés et amis. Ça a commencé à l'adolescence et ça s'est confirmé dans la vie de jeune adulte où je me suis rendu compte des difficultés que les femmes pouvaient rencontrer, mais qu'en fait, dans tous les milieux. Tous les milieux confondus, les femmes rencontrent plus de difficultés que les hommes. Et où, du coup, là, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet, quoi, qu'on pouvait partager en commun, même si on ne vient pas du même endroit.
Je travaille dans un métier qui est... Je suis notaire, et où la présence des femmes n'est pas très grande, on peut le dire. On s'aide dans le métier. Avec les amis aussi, en dehors du métier, il faut s'aider. Maintenant, ça me vient pas des paradigmes, mais voilà. Qu'on ne fait pas vraiment confiance dans le domaine professionnel à une femme autant qu'on fait à un homme. Mais je sais pas, je peux pas l'expliquer. C'est absurde pour moi. Donc je comprends pas pourquoi ça s'est fait. Et autant qu'on se parle de ça, autant qu'on peut le comprendre et pouvoir résister et trouver des solutions.
Est-ce que tu ressens de la solidarité vis-à-vis des autres femmes ?
Oui, je pense. Ici à Paris, oui. Oui, je pense. Parce que moi, je travaille dans une boîte française. Oui, je me sens un peu mieux que quand je suis dans autre environnement. Quand en Chine, c'est un peu différent, ouais.
Et est-ce que tu ressens des problèmes en tant que femme
ici ou en général?
En général, est-ce qu'il y a une différence entre ici en France et en Chine?
Peut-être parce que cette année, j'ai commencé à travailler. Donc, je me sens parfois, c'est un peu peut-être difficile d'avoir une promotion, avoir des mêmes salaires. C'est un problème qui me dérange un peu. Oui, moi, j'ai essayé de... Comment je dis build. Construire des... relation avec des autres femmes parce que je trouve ça c'est plus facile qu'avoir un avec des hommes. Ça, c'est plus proche, on a des expériences un peu similaires donc c'est plus facile. Et normalement je pense les femmes ils ont plus d'avoir de partager leur expérience avec moi. Donc moi je me sens ici en France c'est beaucoup mieux. Je me sens ici, c'est une communauté pour les femmes. Tu as des protestes Oui, pour contre des mauvaises choses pour les femmes. Je pense que ça, c'est bien, ça.
Et ça, ça n'existe pas en Chine, de protester pour l'égalité homme-femme ?
Malheureusement, non. On a pas, en général, on ne fait pas trop des protestations. Ce n'est pas dans notre culture. Et aussi, tu comprends, c'est un peu dit.
Tu fais quoi comme travail, juste ?
C'est dans une boîte luxe.
Avec les autres femmes ?
Mais bien sûr, avec ma copine, avec mes sœurs, avec tout le monde, hein, avec tout, en fait, principalement les femmes. Les femmes de tout âge, ma famille, mes cousines, mes grandes cousines, mes tantes. Et c'est pareil aussi pour elles. Hein. De part aussi notre culture, parce qu'à ce niveau-là, ça, notre culture, nous, à nous deux, on est très solidaires entre femmes. Ouais, on a grandi dedans, donc du coup, on continue comme ça. Quoi. Donc par exemple, si on voit quelqu'un, une femme dans la rue qui a besoin d'aide, et ben, on ira automatiquement. Quoi. Nous, on est pour la sororité.
Moi, personnellement, j'ai grandi par exemple qu'avec mes cousines. Aujourd'hui, ma cousine est en difficulté, elle m'appelle, je vais y aller sans hésitation, on s'entraide. Souvent, on ne sera jamais égalisé à un homme.
Voilà, exactement.
Voilà, donc que ce soit professionnellement parlant ou que dans n'importe quel domaine, même si on te le dit pas directement, indirectement, tu comprendras que tu es inférieur à un homme quand même. Que,
voilà, on le ressent quelquefois. Donc, c'est pas dans toutes les situations, mais quelquefois, oui. Au travail, par exemple, on va privilégier un homme plutôt pour faire une certaine tâche, alors que nous, on est capable, on est tout autant capable de faire la même tâche, et même des fois même mieux.
Vous êtes retrouvés dans des situations peut-être plus difficiles. Est-ce que vous avez eu la solidarité des femmes autour de vous ?
Seule, non. Seule, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais avec, par exemple, mon groupe de copines ou même mon groupe de sœurs ou de famille, mon cercle de famille, oui. Parce qu'après, on est de la famille, on est des copines, on se connaît, mais dans la rue, en vrai... Pas tant que ça. Hein. Bon,
ça m'est jamais arrivé non plus, mais dans le travail, oui. Et honnêtement, j'ai eu le soutien de mes collègues féminines. Voilà. Donc là-dessus, rien à dire.
Et vous êtes dans quel métier ?
On travaille juste en face.
Voilà, notre métier.
C'est la police, non ?
C'est ça, exactement.
Vous n'êtes pas CRS, pas hein, par hasard ?
Non.
Vous êtes policière femme. Nous sommes heureuses de vous inviter à découvrir, à partager la compagnie rayonnante de la sororité. Acronyme CRS.
Vous êtes dans les détricoteuses et on détricote le mot CRS, enfin l'acronyme CRS. Et on vient d'écouter un sujet de Sandra qui est par téléphone, normalement, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends. Vous m'entendez ?
Sandra, nous entends-tu ?
Je vous entends.
Dans un instant, nous allons entendre Sandra.
Qui est, Sandra, tu n'es pas là ?
Si, je suis là.
Moi, je pense qu'elle nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. Bon, en tout cas, on vient d'entendre son sujet. Peut-être que ça vous donne envie de réagir autour de la table, je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que la question de la sororité...
Moi, je trouve ça intéressant comment ça a été développé. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient de un peu de commencer la sororité avec son cercle proche, ses amis, enfin ses sœurs, sa famille, et que c'est comme ça qu'on apprend cette solidarité-là, qui ensuite ça s'expand un peu à une espèce d'une manière un peu plus universelle. Et déjà, il y avait certaines personnes qui parlaient d'une solidarité avec toutes les femmes. Et cette idée d'une empathie ou d'une espèce de compréhension qui se développe en premier dans les premiers cercles très proches, puis qui après s'agrandit, s'élargit. Je trouvais ça beau.
Oui, c'est vrai. Bah, en tout cas, tu es là, Sandra ?
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui !
Ah, pardon, désolée, j'étais en train de me demander. Je suis désolée.
Super. Je sais pas si tu as entendu la réaction en plateau, mais en tout cas, ton sujet, il a commencé à nous faire réagir sur la question notamment des cercles proches et le fait de ressentir une certaine empathie avec les femmes. Est-ce que tu peux nous parler de ton sujet ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce sujet ?
Eh bien, c'était à partir de la... En fait, c'était pour détourner... C'était l'idée au départ, c'était de dire qu'à partir du 1er janvier, dans un futur proche, on aurait pu... retirer les CRS et mettre une compagnie rayonnante de la sororité, ce que je n'ai pas mis en disant, voilà, en imaginant une espèce de flash info comme ça. Et je me suis dit que la meilleure manière, c'était d'aller voir d'autres personnes que moi pour savoir si ça pouvait leur parler. Et ce qui est bien en allant voir les gens qu'on ne connaît pas et en les prenant à partir du mode de femme, c'est que du coup, ben. On peut rencontrer pas mal de personnes et on voit que on voit qu'on peut réfléchir ensemble, en tout cas, sur le moment, sur cette idée-là d'être solidaire entre soi, et même de réfléchir, enfin, à travers le prisme de voir que des femmes, en fait, on enlève des préjugés ailleurs, puisque ça passe pas à travers le travail ou à travers un lieu. Et donc, on peut s'adresser aussi à n'importe qui, ça c'est assez intéressant.
Mais c'est vrai que t'as... Alors, je sais pas si t'as pris des témoignages qui allaient dans ce sens-là, ou est-ce que tu n'as pas eu de contre-témoignages ? Parce que c'est vrai que la plupart des témoignages vont un petit peu dans le même sens, et je me pose la question.
Alors, j'ai pris que des témoignages qui allaient dans ce sens-là, parce qu'effectivement, après, ce qui est bien dans le fait d'aller voir les gens comme ça, c'est qu'il y a des gens aussi qui connaissent pas le terme.
Ouais.
Ça arrive. Mais une fois qu'on leur parle de solidarité féminine, eh ben, tout de suite, en fait, elles comprennent. Enfin, tout de suite, en tout cas, ça prend du sens. Il y en a qui aimeraient bien et qui ne le trouvent pas forcément. Ça, c'est vrai aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a une question là-dessus. Voilà.
Ouais.
En tout cas, il y aurait moyen de faire une réunion et de pouvoir, en fait, penser en fait, ce que c'est être une femme et être des femmes qui vivent plein de situations où les gens pourraient se rencontrer là-dessus et se donner la parole, ou en tout cas se donner des tips aussi, en fait, pour se défendre. Il y a quelque chose comme ça. Quand elles ont des cercles très proches, je trouve que c'est moins difficile. Quand elles se sentent un peu plus seules, mais du coup, ce mot sororité, il vient un peu... Si tout le monde le connaissait, il viendrait réunir en fait des désirs en fait communs, mettre des choses en place.
Mmh. C'est vrai qu'une fois, nous, on avait fait une émission avec un groupe de femmes cis qui avaient comme point commun d'être toutes dans le milieu agricole, en fait. Et du coup, on parlait d'un documentaire qui avait été traité sur cette question-là. Et à un moment donné, il y a cette question autour de la sororité. Et elles sont, c'est une question assez clivante entre elles, parce qu'elles débattent là-dessus en disant, mais en fait, c'est vrai que nous, c'est un mot qu'on n'a pas envie de s'approprier, qui est très intellectualisé, alors que c'est des choses qu'on a toujours vécues. Et on se sent presque obligé de mettre un mot savant dessus. Et des personnes qui ne se reconnaissent pas toujours dans ce mot, ou comme tu dis, ne le connaissent pas. Je trouve ça intéressant aussi de se questionner sur c'est quoi la sororité, est-ce que dans la sororité on inclut les meufs trans, c'est quoi, enfin comment on vit la sororité, je sais pas si ça va faire réagir des personnes.
Moi je pense que c'est intéressant, en tout cas le mot solidarité, c'est un mot qui est plus simple parce qu'il est déjà acté, donc on sait ce qu'on met dedans, et le fait d'envisager d'autres vies de femmes que la sienne, c'est peut-être ça que dit nos sororités, ou d'autres vies dont quand on est peut-être en minorité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est assez facile, quand on parle de solidarité féminine, que les gens parlent de leurs problématiques ou de leur position, si les choses vont changer ou pas, par exemple, sur l'égalité homme-femme. Enfin,
tu voulais réagir, ce
qu'il y a. Du coup, il y a des postures comme ça, ouais, qui ressortent plus facilement.
On a Juliette autour de la table qui voulait réagir.
Oui, moi j'avais une question pour toi, Sandra, parce que tu as parlé de se défendre. Et donc, est-ce que la compagnie rayonnante de sororité, elle remplace les CRS pour se défendre ? Est-ce que c'est ça l'objectif ? Est-ce que c'est une espèce de compagnie de défense par et pour les meufs ?
Peut-être, oui. En fait, il y a l'idée, la compagnie, par rapport au CRS, on parle de sécurité, mais je me dis que si on part de l'idée de la solidarité et de créer cette empathie, ou en tout cas cette espèce de nœud, de lien, chacun a des situations, des vies qui sont différentes, mais sur des choses qui peuvent être similaires, en tout cas se comprendre, ce mot sécurité, c'est peut-être choisir un bouc émissaire pour faire peur, alors que solidarité, c'est peut-être faire du lien pour se dire qu'on peut faire ensemble, même si on est beaucoup, et que du coup, qu'on a besoin de ce beaucoup pour trouver des solutions, plutôt que se demander comment on va faire pour la sécurité. Solidarité, c'est peut-être un mot un peu plus ouvert,
C'est un beau...
Et que oui, ça serait bien de me remplacer parce qu'on aurait besoin que ces liens se fassent pour qu'en fait, la communauté puisse nous protéger, peut-être, et qu'on et que ce mode de protection, il soit déjà là, en fait, à la base, pour pas qu'il y ait de dérive, et que du coup, ça serait peut-être plus salvateur dans ce sens-là, si on devait jeter une première pierre, plutôt que sécuriser.
Pourrait y avoir des cours d'autodéfense dans cette compagnie. On doit déjà te quitter, Sandra. Enfin, tu peux rester avec nous, mais le temps passe, on doit passer à un deuxième sujet. Merci en tout cas d'avoir
Merci
participé
beaucoup.
De loin en plus. Tu restes avec nous ou tu dois raccrocher?
Non, maintenant je peux rester avec vous.
Ok, bah cool. Tu sais pas si tu as envie d'intervenir.
Tu peux nous écouter en stream sur Internet depuis Paris, si tu préfères. Ce sera peut-être plus confortable que ton téléphone.
Ok, d'accord.
Mais si tu veux intervenir, t'hésite pas. Et du coup, on passe à ton sujet, Juliette. Est-ce que tu veux dire deux mots avant qu'on...
Moi, j'ai choisi CRS, cœur, râteau, sexualité. Et voilà, je veux juste dire ça avant que ça commence.
Et bah, c'est parti.
Je te fais... Je te raconte mon anecdote. Je pense que ça serait plus du côté cœur que du côté râteau et sexualité.
C'est l'histoire de l'achat de mon strap-on et comment ça a permis de renverser des stéréotypes de genre installés dans ma sexualité.
Alors, c'était il y a quelques années. Je me posais déjà des questions sur si j'étais attirée par les meufs. J'avais déjà été attirée par des meufs, donc je me posais des questions sur ma orientation sexuelle. Et j'étais en relation avec un homme, 6.
Tu disais un pas de plus dans la queerness. Puis la seule chose qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est mon premier pas dans la queerness, parce que j'ai l'impression que le reste a été assez limpide et qu'il y a eu sans doute des étapes, mais j'arrive pas à les nommer comme ça. Mais je me revois enfant, en fait.
Donc j'ai choisi râteau. Pour donner un petit peu de contexte, à l'époque, je m'identifiais comme une meuf Gwyn et je sortais d'une relation toxique avec une femme qui a duré 3 ans, avec laquelle j'ai vécu des violences conjugales. Et donc, je commence à date ce gars qui est mon collègue à ce moment-là, qui lui vient juste de divorcer après 20 ans de vie commune avec son ex-femme. Donc, on relationne caché, puisque à ce moment-là, je suis la Gwyn de l'équipe.
Donc c'est mes premiers pas dans la queerness sans savoir ce que c'était queerness, sans savoir ce que c'était possible d'être quoi que ce soit, de toute manière, et où j'avais rétrospectivement des crushs sur des filles de mon entourage ou sur des filles plus grandes de classe supérieure, et je voulais être leur chouchoute, d'idolâtrer un peu, et puis j'étais vraiment contente quand elles me donnaient de l'attention.
Donc on est en voiture, je conduis, il y a un feu rouge. Et je vois deux nanas à droite et je me dis, bon, si tu es lesbienne, si tu es attirée par les femmes, regarde-les et vois si tu es attirée par elles, ça voudra dire que tu es lesbienne. Ça voudra dire qu'effectivement, les femmes t'attirent. Donc je les fixe, je ne vois aucun, je ne suis pas du tout attirée par elles deux particulièrement. Et là, du coup, mon copain de l'époque me regarde et me dit, oh, je sais exactement ce à quoi tu es en train de penser.
Ah oui, mon strap-on est de couleur olive marbrée.
J'ai choisi cœur râteau, c'est un petit mix je pense.
Ah oui, je pensais qu'ils s'en doutaient parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé. Tu adores sa jupe. Donc j'ai dit ah oui, ah, mais exactement, tout à fait ce à quoi je suis en train de penser.
Une nuit dans l'été de mes 18 ans où je travaillais dans un glacier et j'avais une collègue qui... J'avais cette même attirance pour une espèce de fascination sans vraiment mettre de mots sur ce que c'était, sans avoir envie de l'embrasser, enfin sans avoir aucune envie, mais elle me fascinait, tu vois. Une nuit... Pendant cet été-là, j'ai fait un rêve érotique avec elle. Et le matin, je me suis réveillée et je pensais à ce rêve dans mon lit. Je me suis dit, bon, ben je pense que ça répond aux questions que je m'étais jamais posées, mais je pense que je suis lesbienne. Et à partir de là, c'était ça.
Bah, je sais pas, on disait peut-être râteau, mais je trouve que cœur aussi, un petit peu, c'est quand même... Bah, c'était des questions du cœur, quoi. Je me disais, est-ce que... C'était sûr, pour moi, ça allait tracer mon chemin tout après, quoi. Alors, si une de ces deux meufs m'attire, c'est bon, ça valide bien ce que tu penses depuis des mois et des années. Il faut que tu fonces.
Et au bout d'un an et demi, je lui dis que moi, je me sens prêt à faire un coming out hétéro et à ce qu'on puisse relationner aux yeux des autres et voir emménager ensemble, etc. Avoir une vie 6-7 normale.
Bah, ça a été quand je l'ai mis pour la première fois et où j'ai ressenti ce sentiment de puissance.
Ma première relation lesbienne, du coup, quand j'avais 18 ans, a été giga chaotique. Ça s'est très mal passé. On est restés 4 mois ensemble et elle m'a ghostée le dernier mois, totalement. Et vient l'anniversaire de ma meilleure amie, donc une amie qu'on avait en commun, que j'organisais. C'était un anniversaire surprise et je savais que, vu que j'organisais, elle allait être là. Et je savais aussi que j'allais potentiellement me faire larguer à cette soirée.
Lui, à ce moment-là, me met un gros râteau en m'expliquant que lui préfère pas et qu'il préfère continuer à relationner caché, etc.
Et en plein milieu de cette soirée, elle me prend en peur pour me larguer, du coup, devant tout le monde. Pendant la soirée, anniversaire de ma meilleure amie, slash 2 jours avant Noël, enfin, la veille de Noël. C'était très désagréable. C'était vraiment très désagréable.
Ça a été assez difficile à avaler, mais in fine, ça m'a permis de m'autoriser à sortir de l'illusion 6-7 dans laquelle je m'étais un petit peu enfermé. Et redate des nanas et puis retomber amoureux par la suite de quelqu'un d'autre.
Et avec le recul, ben, je pense que j'ai beaucoup, au final, j'ai beaucoup d'affect pour cette personne parce que c'est notamment grâce à elle que, du coup, en terminale, j'ai pu faire mon coming out. La première fois où j'ai enfin dit, ben ouais, officiellement, les filles, ça m'intéresse.
Vous voulez tout savoir? Je vais tout vous dire. En vrai, bah, c'est un peu intime. Hein. Mais il y a 2 trucs. Genre, me faire sucer, j'aime bien. Et donner du plaisir à l'autre et faire jouir l'autre, j'aime bien aussi.
Nifa, wherever you are, I believe that my heart will... Go.
J'adore. Ah non, mais vous êtes toujours sur Jet FM dans les détricoteuses et pas que sur Jet FM puisque cette année on est également diffusé sur Radio Méga à Valence. Merci à Radio Méga.
Donc un placement de produit.
Le mot CRS. Merci Juliette. Alors moi la première question que j'ai envie de poser c'est comment est-ce que tu as procédé le dispositif parce que j'ai l'impression qu'il fallait choisir comme si on choisissait une carte, cœur, râteau ou... Tu peux expliquer voilà, comment tu as fait pour mener les entretiens enfin, les...
Oui, j'ai contacté des gens que je connaissais ou des gens que je rencontrais sur la route pendant des voyages récents. Je demandais à des personnes queer, puis le pitch c'était « Je fais une émission de radio, CRS, cœur, râteau, sexualité. Racontez-moi une anecdote en lien avec le cœur, un râteau ou la sexualité où vous avez fait un pas de plus dans la queerness. »
Ah oui.
Il s'est passé quelque chose en lien avec un de ces 3 domaines qui vous a permis d'affirmer un petit peu plus votre queerness ou de sortir un petit peu plus de l'hétérosexualité. Donc oui, c'était en effet un choix de carte, mais il y en a plusieurs qui ont choisi cœur et râteau. Et d'ailleurs, j'étais surpris que cœur et râteau puissent coexister ensemble.
Mmh. Oui, parce que je me suis dit ça aussi, je trouvais que ça parlait beaucoup de coming in et coming out aussi. Et du coup, je comprends mieux l'orientation de l'interview, effectivement.
Et du coup, pareil, un peu même question que tout à l'heure. Est-ce que tu as fait une sélection des personnes qui parlent ou on entend toutes les personnes que tu as
interrogées ? On entend toutes les personnes que j'ai interrogées. Mais c'était des personnes que j'avais déjà entendu parler, avec qui j'avais déjà échangé. Donc, quand je leur ai demandé, je savais un peu à quoi m'attendre.
Et pour...
Tu les connaissais, pardon, tu les connaissais alors, c'était pas des personnes de voyage, enfin que tu as rencontrées en voyage.
Mais c'est des personnes que j'ai rencontrées en voyage, mais avec qui j'ai passé assez de temps pour pouvoir dire que je les connais un peu.
Ça marche.
C'est l'interrogatoire. Mais à quel degré, c'est-à-dire
C'est pas du tout pareil d'interroger des personnes qu'on connaît et d'interroger des personnes qu'on croise ponctuellement. C'était pour ça que je posais cette question.
Ouais, mais ça, moi, ça m'a fait penser à la série. Vous vous souvenez de Pelle et Râteau de Jeanne Robet ? Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette série sur Arte Radio. Et du coup, c'est un petit format, c'est entre 2 et 4 minutes, un truc comme ça. Et du coup, les personnes racontent une petite anecdote, soit d'une pelle, d'une super pelle ou d'un râteau, d'un super râteau. Et c'est assez drôle à écouter. Effectivement, moi, j'ai bien aimé le petit montage en croisé, c'est ça. Tu disais, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, ton rapport à la radio, t'en as déjà fait. Et tu nous confiais que ça te faisait plaisir de pouvoir recréer, de te remettre un pied dedans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rapport à la radio ?
Ouais, mais la partie là, c'est un montage super simple. Enfin, c'est juste une voix et c'est juste des voix. Il y a pas d'habillage sonore. Mais rien que la partie tendre le micro à des gens que je connais, les mettre assez en confiance pour me parler de quand ils se font sucer avec leur strap-on ou de me parler de genre la première fois qu'ils ont fait un rêve érotique et ils ont compris qu'ils étaient lesbiennes. Enfin, cette partie-là de mettre en confiance les gens et de poser les questions qui les amènent à me raconter leur anecdote, c'est une partie que j'aime aussi. Et puis après la partie où je suis seule avec les témoignages et que j'essaye de leur faire honneur. Et puis, j'ai choisi aussi un montage en ping-pong parce que je trouve que les vies queer sont jalonnées de plein de moments super, super importants et super cruciaux. Et puis, il y en a beaucoup qui se répondent, enfin, entre toutes les personnes queer, il y a beaucoup de ces moments-là qui se reconnaissent et qui se répondent et qui sont similaires parfois. Enfin, il y a deux personnes qui parlent d'un râteau qui leur a permis finalement d'affirmer un petit peu plus leur queerness, ou il y a d'autres personnes qui parlent de... Il y a certaines où c'est des doutes et c'est des genre mon Dieu, si je vois cette facile, l'une de ces deux meufs m'attire, ça veut dire, ça répond à mes doutes. Et puis d'autres personnes où c'est une évidence complète de comme je fais un rêve et c'est bon, je suis lesbienne et à partir de ça, je serai lesbienne toute ma vie. Mais je trouvais que le montage en alternance comme ça permettait un peu de mettre en lumière comment est-ce que tous ces vécus-là peuvent être sont très individuels et très uniques et en même temps sont vécus en parallèle et peuvent se répondre et ils peuvent créer une sorte de solidarité aussi pour faire écho à la création précédente.
Et les questions queer, c'est des questions que tu as l'habitude de traiter en radio. J'ai cru comprendre que tu avais une émission autour des queerness avant.
Ouais, bah je vais faire de la publicité.
Vas-y, c'est le moment. Je te tends la perche.
Merci. J'en fais plus partie parce que j'ai quitté la ville où c'est enregistré, qui est Montréal. Mais ça s'appelle C'est pas notre genre. On a fait 3 saisons.
Trop cool.
Ça continue.
Alors, je ne suis plus dans l'équipe, mais je pense qu'elles ont fait une pause. Je ne sais pas si ça va reprendre ou pas.
Ok, mais on peut écouter encore
On peut écouter encore, tout à fait. Il y a 3 saisons d'actualité queer féministe, avec un point de vue aussi décolonial, et puis de gens qui parlent d'actualité et aussi décryptent, utilisent leur vécu comme exemple pour introduire des concepts et les vulgariser.
Super. D'un point de vue philosophique, tu veux dire
Non, mais par exemple, de dire j'ai eu cette date la semaine dernière, il s'est passé ça, et ça me fait penser à tel concept que je connais, et j'utilise ce concept pour mieux comprendre ce qui m'est arrivé. Et que finalement, c'est pas juste une affaire individuelle.
Trop bien. Et maintenant, tu es sur d'autres projets radiophoniques.
C'est vraiment ma publicité.
C'est super. On aime bien aussi mettre en avant les créatrices ici sur le plateau, parce que l'idée, c'est aussi de valoriser des contenus qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude d'écouter sur les radios mainstream. Et donc, c'est toujours le moment de faire des super pubs. Mais si tu veux pas.
Je suis surprise, mais merci. Là, je rentre de 3 mois de reportage sur le terrain dans les campagnes françaises. Je suis allée rencontrer des militantes féministes dans les campagnes pour en faire une série de balado, de podcast, qui parle du militantisme rural et puis à quel point est-ce qu'il est vivant, dense, riche et diversifié. Et c'est pas encore sorti, mais suivez-moi sur Instagram @juliettecvt pour savoir quand ça sort.
Carrément. Et là t'as fini tes tournages, on va dire. T'as tourné, tu l'as fini.
Ouais. Donc tu vas. Il me reste genre 2 entrevues en ligne, mais sinon la partie enregistrement est terminée.
Donc là tu vas attaquer le montage.
Dérochage, j'ai beaucoup d'heures à écouter, puis montage, ouais.
Ok, et donc après, il y aura un certain nombre d'épisodes qu'on pourra écouter en ligne.
Tout
ok, très bien. Bah, du coup, on verra.
Je reviendrai en parler.
Bah, carrément. Même peut-être qu'on pourra diffuser.
Allez, grand plaisir.
Grave, à fond. Bah, trop bien, CRS, cœur, râteau, sexualité. Moi, j'aime bien entendre les petites histoires d'amour et tout. Et ça me fait aussi penser au petit format de Paint sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et du coup, bah, les couples queer qui présentent un petit peu leur romance et tout. Je ne sais pas, je trouve ça... C'est mon petit cœur sensible. Pourtant, je ne suis pas sensible normalement. Mais là, j'avoue que je trouve ça trop mignon. Et du coup, ils rencontrent des couples dans la rue. Bon, c'est un peu mis en scène. Et c'est alors, depuis combien de temps vous êtes en couple et tout. Puis elle raconte et je trouve que bah, voilà, c'est beau.
Mais c'est trop beau, les histoires d'amour, on finit toujours par s'y reconnaître. Quoi. Ça peut être quelque chose de très différent. Puis des personnes âgées qui sont ensemble depuis 50 ans, puis j'arrive à reconnaître quelque chose de mon histoire dans leur... Enfin, c'est tellement des choses super intimes, mais dans lesquelles on se reconnaît tout le monde. Donc ça nous rassemble.
Ouais, puis je trouve que des petits formats comme ça aussi, ça montre d'autres choses, des amours queer tels qu'ils sont représentés dans les films, etc., qui sont très sexualisés, enfin en tout cas très tournés autour du sexe. Et voilà, et en fait, je trouve que ça normalise, entre guillemets, même si on ne devrait pas normaliser le truc, mais enfin, je veux dire, c'est... voilà, enfin, je trouve que ça permet d'avoir une autre vision qui n'est pas uniquement portée sur le fantasme qu'on se fait des relations queer. Donc ça fait plaisir. Voilà.
Et on peut faire un peu de pub pour aussi les détricoteuses, parce qu'il y a une émission qui s'appelait Pelle et Râteau, justement, à laquelle
tu
as participé même.
Je ne viens que quand ça parle de Pelle et Râteau, que je connais bien.
Eh bien, super, merci Juliette.
Merci à vous.
On fait une petite pause musicale avec ton choix. Non, ton choix, Salomé. Tu as choisi Maya Kamati. Moi, je ne connais pas, vous pouvez en parler, Salomé, tu veux ?
Vous connaissez ? Of course ! Bah, Maya Kamati, ma queen suprême, tu veux la présenter ? Bah oui, bah, elle est d'origine réunionnaise, bah, elle est réunionnaise, donc forcément. Et donc, Maya Kamati, rappeuse trap maloya de La Réunion, qui déchire tout, voilà, c'est tout.
Belle présentation.
Let's go.
C'est bon. Ouais, en fait. Tu veux dire en maloya? Ah oui, bah oui, grave. Ouais. Tu sais qu'elle est passée à 10 sémitistes l'an dernier, je l'ai loupée, je voulais mourir. Ouais.
Ouais.
les détricoteuses, on est en train de détricoter l'acronyme CRS et on ne parle pas du tout de police. C'est une super intro, je sais. On va écouter le sujet de Luc et Salomé qui sont avec nous en plateau. Peut-être que vous souhaitez l'introduire avant.
Oui, effectivement, on ne parle pas du tout de police, quoique un peu dans les paroles finalement. On va continuer musicalement. Ça va être une création musicale qu'on va vous proposer sans transition avec Maya Kamati. Mais bonne écoute.
Putain, je croyais trop. Bah, j'étais. Ah, oui, mais tu pouvais très bien.
Au skate park comme dans la rue, on fait les malins sur le trottoir. Si tu te blesses, c'est stylé, tu rentreras dans les mémoires. Ça claque d'avoir un bras cassé, au moins t'es pas pédé. Si tu veux pas prendre ce risque, reste chez toi, lire des BD.
Être un garçon, c'est dangereux, prendre des risques, être courageux. Occupe le terrain, grimpe plus haut, t'as peur de rien. Avec tout ça, mourir bêtement. T'as 70% de chance en plus qu'un accident t'emporte avant tes 14 ans. En même temps, t'as l'occasion. Pour toi, l'État investit, skatepark, football, terrain pour fun garanti. Trois quarts des budgets loisirs pour des sports masculins. Et si t'es pas un garçon, y a plein de places dans les gradins.
Bah, moi j'y ai cru.
Je roulais avec mes gars en direction de la boîte. Tranquillement installé, on commence à s'ambiancer. D'accélérer en m'insultant de pédé. Ok, j'appuie sur la pédale, on part à pleine balle. Ma BM, mon bébé, l'ambulance qu'elle a heurté, elle a bien amoché, on dirait une scène de ciné. On se retrouve le nez en l'air, par terre avec mes frères. Maintenant tout est niqué, pour la soirée c'est baisé.
Tu voulais faire la fête, t'es plutôt dans la défaite. C'est du sang, pas du champagne, que je vois dans la campagne. Chaque année, 13 milliards, ici et pas ailleurs. Parce que tu voulais faire le beau, devant mes sœurs. Accident de la route, tu m'étonnes que ça coûte. Garagiste, hôpitaux, police et tribunaux, juste pour jouer aux garçons. Tant d'argent, c'est vraiment con. Alors arrête d'être un macho et convainc aussi Retailleau.
Imagine si ces débiles n'étaient pas aussi virils. On aurait de l'argent à claquer avec du style. 95 milliards gâchés par des connards. Alors qu'on pourrait partir et manger du homard. Attention mes frères, faut arrêter de déconner là.
Ouais.
Allez, pensez à vos mères, à vos sœurs,
oh,
qui sont dans la galère pour la société.
Putain.
Ce gars, je l'ai vu l'autre jour, sa femme appelait au secours. Il lui tapait dessus tous les jours, il appelait ça de l'amour. La passion, l'émotion, pression d'être un homme. Il disait qu'elle se prenait des coups de testostérone.
Il a réponse à tout, comme tous ces hommes qui font la queue devant la cour pour être jugés en tant qu'homme, pas qu'amoureux. Six jurés, deux avocats, 30 personnes bossent pour toi, tous bordel pour mettre au pas ta culture de vrai gars. À la justice, les hommes coûtent 3 milliards. La plupart des infractions sont faites par des garçons, comme 96%. Des violences conjugales, gros travail d'éducation à faire sans aucun pognon. Dans ta socialisation, on t'a offert que des camions. On t'a dit, si tu pleures, t'auras aucune valeur. Alors que si t'es fort et fier, tu survivras en primaire. De toute façon, t'aimes pas le rose et tu veux pas de mycose.
Tu me dis que c'est ta testostérone qui m'insulte, conne. C'est pas elle qui te rend vénère, c'est ta rage qui la génère. Petit garçon, n'oublie pas, not all men est criminel. Par contre les bandits ont presque tous un zizi.
L'éducation des garçons est une des conséquences d'une longue acculturation à toutes ces violences. Stéréotypes prolongés, on vous pousse à dominer. Pourquoi être sensible quand on peut être invincible?
Imagine si ces débiles n'étaient pas aussi virils. On aurait de l'argent à claquer avec du style. 95 milliards gâchés par des connards. Alors qu'on pourrait partir et manger du homard. Imagine si ces débiles n'étaient pas aussi virils. On aurait de l'argent à claquer avec du style. 95 milliards gâchés par des connards. Alors qu'on pourrait partir et manger du homard. Ouais, du homard. Yo.
Quoi ? Rendez l'argent, les mecs. merci Salomé, merci Luc. Alors, déjà, bravo, hein, quelle belle entreprise.
Quel flow.
C'est assez rare qu'on reçoive un couple dans les détricoteux. qui a acheté le livre de Lucille Pétavin auquel vous faites référence ?
C'est moi qui l'ai acheté.
Ah.
Oh, moi. Tu vois, tu commences.
Ouais.
Parce que nous, on en parle beaucoup, mais on ne l'a jamais lu.
Il y a régulièrement des références dans les créations que ça nous propose. C'est vrai qu'il serait grand temps de l'acheter.
Peut-être qu'on peut expliquer quel est ce livre.
Bien sûr. Ils vont nous le raconter, puisqu'eux, ils l'ont lu.
Tout à fait. J'ai pris quelques notes. Alors, Le coup de la virilité, c'est un livre qui a été écrit en 2021 par Lucille Pétavin. Pétavin, qui est une économiste, historienne, essayiste et membre du laboratoire de l'égalité depuis 2016. Donc son livre, il s'appelle Le coût de la virilité et ce que la France économiserait si tous les hommes se comportaient comme les femmes. Tu veux en parler ?
Je peux dire un minimum que je l'ai acheté au bien-aimé parce que ça avait l'air bien. Parce que comme je suis un garçon, je sais pas, j'aime bien l'économie quand même. Ça... un peu les chiffres, je sais pas, ça me plaît. Alors je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant. Et elle parle pas mal, en fait, elle parle beaucoup d'éducation. Il y a une longue partie du livre qui décrit pourquoi c'est ça, et pas que ce que ça coûte, c'est un peu à la fin, et beaucoup de pourquoi c'est comme ça, et de chiffres. Et voilà, c'était intéressant.
Mais après, quand même, les chiffres que vous citez dans la chanson, c'est les vrais chiffres, quand même. C'est quand même... Enfin, quand on prend conscience du coût réel, enfin, quand même... C'est assez hallucinant quand même de oui. Entre les accidents provoqués, les structures construites particulièrement. Enfin voilà, il y a tout un tas de champs de.
Oui, c'est vrai que ça, c'était intéressant de découvrir. Enfin, on savait que ça posait question à plein d'endroits, mais économiquement, c'est un truc qui n'était pas venu dans ma tête. Ah oui, en plus de ça, ça coûte un max de thunes, alors qu'on pourrait mettre cet argent autre part. Et après, elle en parle à la fin, mais. Moi j'en ai du coup beaucoup parlé à ma famille aussi, à des gens donc le féminisme ils en entendent tout le temps parler machin, mais là d'un coup il y avait un nouvel angle où ah oui mais c'est vrai que on n'avait pas pensé, mais oui elle est à l'hôpital, les frais judiciaires etc. Bon, c'était une nouvelle approche et du coup on s'est dit que ce serait marrant d'en faire un peu un rap avec des chiffres un peu balancés comme ça.
Alors et pourquoi du rap? Pourquoi du rap? Mais pourquoi pas hein, mais je veux dire pourquoi vous avez choisi, parce que
alors, vous êtes musicien déjà, faut le dire, musicienne dans la vie.
Oui.
Ouais.
Mais pas de rap, du coup, c'est intéressant de savoir pourquoi. En fait, j'ai un peu envie. Bon, vas-y, je te laisse terminer, puis après, je poserai ma deuxième question.
Je sais pas, il y avait un peu. C'était un peu la période de Vita pour Salomé, et ça... on trouvait que ça collait un peu Vita, l'ambiance. Michael Youn aussi, période Michael Youn pour Salomé à ce moment-là.
C'est
vrai. Connu la... Et je sais pas, je sais pas à quel moment on s'est dit que ce serait marrant de faire une chanson, mais on s'est dit que ça collait un peu l'ambiance pour parler de virilité, de un peu cette ambiance de rap, de mec. C'est pas toujours très engagé ou engagé un peu n'importe comment. Et du coup, un peu là de... Bon, en l'occurrence, Vita, je connais pas pour en parler, mais c'est pas... À mon avis, je crois pas que ce soit problématique, mais en tout cas, on trouvait ça... Que c'était cohérent de parler de ce sujet avec ce style-là.
Quand tu lis le livre, t'es un peu en colère. Tu fais que de lire des actions qui coûtent de l'argent et qui sont des actions de merde, de type faire des accidents, rouler vite, fumer des clopes, en étant vénère, les écraser par terre, machin. Du coup, je sais pas, on s'est dit, ce serait marrant de faire un truc un peu énervé. Mais pourquoi le R&B ? Parce que Luc connaît très peu le R&B et que j'avais envie de lui faire découvrir cette vibes. Et je pense qu'il a un peu compris maintenant.
J'ai écouté des belles références.
Alors moi, ça m'intéresse de vous interroger sur la création en couple, hein, parce que vous êtes ensemble dans la vie.
Couple hétérosexuel.
En plus, je lui ai dit dans la voiture, s'ils nous disent, elles nous disent, on est ensemble, on dit quoi ?
Non, on dit non.
On joue ensemble de la musique.
Est-ce que vous avez l'habitude de faire des choses, de créer des choses ensemble ? C'est quand même, c'est particulier, hein, on n'est pas. Est-ce que vous avez l'habitude de faire de la musique ou de faire des choses ensemble ? Créer des choses ensemble.
C'est un peu les amours, on pourrait répondre chacun de notre côté et on compare les réponses. vas-y, commence.
Bah, c'est la première fois ou pas? C'est pas une question
compliquée. Non, c'est pas la première fois. Déjà, on a des groupes de musique ensemble. On a l'habitude de faire beaucoup de tournées. Écrire des chansons, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, cela dit.
Oui, mais pas que tous les deux, d'habitude, ou aussi.
On a déjà eu une tentative de projet à deux musical.
Qui a échoué. Mais vous les prenez dans leur retranchement, enfin.
Après, de manière générale, créer un truc à deux, un peu intime, ou alors où il faut écrire un truc un peu précis, c'est pas toujours facile avec n'importe qui que ce soit. Mm. Voilà, j'élargis. Et je décentre de nos problèmes.
Non, mais c'est privé.
Mais en vrai, oui, je sais pas comment tourner, mais c'est pas facile, mais comme avec n'importe qui. Et c'était pas la première fois, mais la première fois, peut-être qu'on y passait autant de temps. On a passé quand même énormément de temps. Il y avait beaucoup de... Salomé, c'était un peu la directrice artistique. Ils disaient non, plus énervé, plus de violon, plus de vita.
Ok, merci, vous avez pris du plaisir alors.
Mais oui.
T'avais d'autres trucs sur tes petites notes, Salomé là,
J'avais repris les chiffres pour les dire, mais...
Vas-y, envoie.
Donc, entre 2018 et 2020, 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes, 86% des personnes qui font des meurtres sont des hommes, 84% des accidents routiers mortels, 95% des vols avec des armes, 99% des viols, 86% des personnes qui font du harcèlement de rue, 72% des héros en littérature sont masculins, et 75% du budget public est dédié à des sports dits masculins. Donc, bon, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ça veut dire sûrement de faire du foot dehors. Et elle disait qu'en France, un homme a 6 fois plus de risques de devenir un meurtrier qu'une femme. Donc si tous les hommes ne sont pas des criminels, la quasi-totalité des criminels sont des hommes. Et également que la testostérone ne rend pas agressif, mais c'est en étant agressif que son taux augmente.
C'est en étant agressif que le taux de la testostérone augmente. Intéressant.
Très bien. C'est une donnée scientifique, ça ?
Écoute, sûrement page 74.
Bon, pas bien, mais... En tout cas, c'est une vraie question de ce que, avec tout cet argent, on pourrait faire mettre en place. On en parlait dans il n'y a pas longtemps de ça, mais on peut laisser libre cours à l'imagination, mais...
Quelle utopie féministe est-ce qu'on se crée ? Est-ce qu'on crée quand on a plein de flouzes ? Ce qui est rare dans les milieux féministes.
Après, on peut, c'est aussi relancer l'économie. Grâce à un accident, ça crée des garages, ça crée de l'emploi chez la police. Voilà, c'est aussi l'hôpital, un moteur économique.
Ça fait fonctionner l'hôpital,
voilà.
les assurances.
Mm-hmm. Ouais.
C'est tout un modèle.
C'est vachement mieux que quelqu'un qui fait des trucs qui se fait jamais mal. Il va jamais chez le docteur, il va jamais chez le garagiste.
Ouais, heureusement qu'il y a des hommes violents, hein, sinon vraiment les hôpitaux seraient désœuvrés.
Ouais.
Le désœuvrement. Je pense que ça fait bien le pont avec l'agenda à CAB, Julie.
On arrive déjà presque à la fin de cette émission. Merci en tout cas. Vous mettez le morceau que ça devienne un tube sur toutes les plateformes.
Ah, ouais.
Ah oui, moi je veux le réécouter.
Pour Noël, n'hésitez pas à le partager à vos familles. Non, c'est les débats.
Jetez-le aussi.
Vous avez un nom de groupe ? On ne vous a même pas demandé ?
On n'a pas réfléchi à ça.
Les CRS
question. Ouais.
Ou okay. Un nom de couple ? Vous avez un nom de couple ? Parce que Julie, sur le... Ah ouais ? Sur la conductrice, le conducteur, elle nous a mis Salo Luc.
C'est moi, voilà. Pardon.
Ah, réfléchis, vous pouvez y réfléchir. Voilà.
Moi, j'avais mis Saluc.
Oui, mais...
Bon, bref. Alors, donc, nous sommes au moment de l'actu de l'émission et on fait un spécial 13-12. Que va-t-il se passer le 13 décembre à Nantes ? Eh bien, deux trucs, au moins, déjà. Il va y avoir à Pollen la Staracab. Mais je vous invite à y aller parce que, en fait, c'est une version ACAB de la Star Academy. Ça donne très envie, je n'en sais pas plus. Mais je pense pas. Allez tenter votre chance, à mon avis. C'est le moment.
Je crois qu'il n'y a plus de place.
Il n'y a plus de place ? Mais on peut y aller en spectatrice, spectateur ? Non, même pas ! Ah ouais ? Oh là là, quelle déception, parce que je vous parlais d'un autre truc qui est complet. C'est l'ouverture de Mixte, le nouveau grand T, ouais. Et qui fait. Il y a une sweat lodge avec une prog féminine en DJ qui vont ambiancer toute la soirée.
Tracy de Sa, Paulette Sauvage et la Diabla.
Tracy de Sa qui est à Nantes.
Tout à fait.
Ah ouais,
le 13-12. Mais c'est complet.
Bah,
il y a des places à revendre.
Écoutez Tracy de Sa sur les plateformes déjà, c'est bien.
Ouais,
c'est une queen.
Et bah je pense que toutes là. Et du coup, bah voilà, il y aura sans doute des places à revendre sous le manteau, sous le chapeau.
Mais attention, gare au CRS.
Exactement.
Il y en a partout à Nantes en ce moment.
C'est vrai.
Il y en a partout, partout, non ? Alors, eh ben merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. La prochaine émission, on revient en janvier, c'est le mot griffe. Oui. Nous verrons ce que nos contributrices nous ont proposé. Et puis, bah, d'ici là, bonne fin d'année. Et on se quitte avec, ah bah, avec une musique de, à propos de Dominique Grange, qui est à date de 68. La chanson s'appelle « À bas l'état policier ». Voilà, je vous en dis pas plus.
Mais attends, t'es sérieuse, t'as mis ça comme musique? Je croyais que c'était Annie Cordy, moi, que t'allais mettre.
Ah non, bah, je vous laisse.
Non, mais attendez, parce qu'on a découvert en préparant l'émission qu'il y avait une chanson d'Annie Cordy qui s'appelait Mon CRS.
Ouais, mais va écouter les paroles.
Ah ouais.
C'est la même que celle de Renaud, j'ai embrassé un
bah,
flic.
Bah, on n'est pas loin. Ouais, c'est ça.
T'en déconnes.
Carrément, c'est la version cordiesque de Renaud.
Ouais. Ah ouais, bah j'ai pas écouté parce que j'ai juste vu ton lien passer.
Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Alors, par contre, voilà, celle-là, Dominique Grange.
Au revoir.
Salut.
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico, et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.